Politeia, portrait d'élu de proximité. Une émission réalisée par Véronique Leroux et Margot Bonnet. C'est un homme posé et souriant qui m'accueille le 31 mai dernier dans son cabinet d'avocat brestois pour évoquer son engagement de proximité au service de sa commune depuis plus d'un quart de siècle. La marmite de la vie communale, il est tombé dedans à 23 ans, à Plougonvelin, commune de 4500 habitants, de la communauté de communes du pays d'Iroise. Chez les Laudrins, l'engagement électif, c'est une histoire de famille. Cousins, grands-pères et même arrière-grands-pères occupent ou ont occupé des fonctions électives ici ou ailleurs. En 2022, Bertrand Audrin, alors premier adjoint chargé des finances de la commune, en devient le premier édile à la suite de la démission du maire. Les trois mots qu'il a choisis pour se décrire sont « enjoué », « rigoureux » et puis, au fil de la conversation, « proximité ». Avocat de profession, vous êtes un homme de la parole. Et en tant que maire, diriez-vous que vous êtes également un homme de parole? Autrement dit, est-ce que lorsque vous dites, vous faites?
Souvent, quand on est élu, on est confronté à des demandes légitimes ou pas. Et avant de dire oui, il faut toujours se poser la question, est-ce que l'on a droit de dire oui? Parce que si on dit oui à quelqu'un et puis qu'après on s'aperçoit qu'en fait ce n'est pas possible, on va générer des frustrations qui sont parfaitement compréhensibles. Quand on annonce quelque chose, on se doit évidemment de se conformer à ce que l'on a dit. J'ai par exemple, lorsque j'ai été élu en mars 2022, en cours de mandat, annoncé qu'en 2026 je ne serai pas candidat. Et j'ai plusieurs personnes qui me disent « oui, mais tu as dit cela à l'époque ». Mais je dis « oui, je l'ai dit et je me tiendrai à ce que j'ai dit », puisque à partir du moment où on l'annonce, après, c'est malvenu, évidemment, de changer d'avis.
Alors, étonnamment, vous avez été élu maire 2 ans après les échéances électorales de 2020. Autrement dit, en cours de mandat. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Le maire qui avait été élu en 2014 et réélu en 2020, dont j'avais été l'adjoint, premier adjoint en 2014, et puis j'étais deuxième adjoint en 2020, parce que je voulais lever le pied, a décidé de démissionner en 2022, donc il y a eu une élection, et puis les conseillers de la majorité m'ont fait l'honneur d'être maire, donc ce n'était pas forcément prévu, effectivement... ça a permis de sortir d'une situation qui n'est jamais agréable pour personne, les conseils municipaux, la population aussi, parce que quand un maire démissionne, c'est toujours un événement particulier, bien sûr, qui interpelle. Donc les conseillers municipaux m'ont élu maire en mars 2022 en cours de mandat.
Qu'est-ce qui fait qu'à peine élu maire, vous annoncez que vous ne serez pas candidat en 2026?
Alors, l'idée, c'était aussi que quand on sort de la démission d'un maire en poste, il y a une situation qui peut parfois être conflictuelle. Et l'idée, c'était en annonçant en mars 2022 que je ne serais pas candidat en mars 2026, de ressouder au fond l'ensemble du conseil municipal, se dire que le maire, il, n'étant pas candidat en mars 2026, on peut tous travailler ensemble sans qu'il y ait de concurrence. D'arrière-pensée qui pollue en fait les débats, tout simplement. Mon premier mandat donc, en tant qu'élu municipal, c'était mars 2001. Mars 2026, ça fera 25 ans qu'à des degrés variés, je suis impliqué dans la vie communale, donc 25 ans. 25 ans dans une vie, ça commence à compter. Et donc, il est aussi légitime que d'autres personnes s'impliquent. Je ne vais pas dire place à d'autres, mais voilà, moi je pars du principe que, pas l'alternance, mais le renouvellement a effectivement du bon.
Depuis plus de 25 ans de mandats successifs, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour votre commune? Qu'est-ce qui vous met en mouvement?
Ça reste une tâche qui est intellectuellement passionnante parce qu'on apprend plein de choses. On est confronté à des situations aussi parfois qui sont conflictuelles donc ou difficiles. Donc on réussit à solutionner ces difficultés-là. Évidemment, on ne peut qu'en tirer une satisfaction. Je pense à la crise du Covid en 2020 où il y avait évidemment besoin des élus, des communes, parce que il faut trouver des solutions. Je pense aussi à la tempête Ciaran en octobre-novembre dernier, où effectivement la population qui était privée d'électricité, on leur apporte des solutions. C'est vraiment cette notion-là d'aider au fond la population de vivre ensemble, tout simplement. Je ne sais pas si c'est le souhait de se sentir utile, mais c'est le souhait, en tout cas, d'essayer d'être utile, plutôt.
Avant de céder votre place en 2026, il y a un projet vieux de 40 ans qui vous tient manifestement particulièrement à cœur. C'est celui du réaménagement du centre-bourg de Plougonvelin.
C'est un projet dont on parle depuis 40 ans dans la commune, à chaque élection municipale. Et puis, une fois que l'élection municipale a lieu, au fond, le projet retombe dans les limbes jusqu'aux prochaines élections. On est sur une commune balnéaire, mais avec un bourg rural qui a assez peu évolué depuis 40 ans et qui est sans doute peu dynamique. Et donc, l'idée, c'était justement de requalifier pour en faire de ce centre-bourg un lieu de vie, tout simplement, pas simplement un endroit où on passe. Donc, ça nécessite effectivement de créer les conditions pour que y ait une vie sociale, une vie économique, ce qui fait que on vit en société. On a lancé effectivement déjà depuis quelques temps des projets. Et puis en fait c'est quelque chose d'assez global. C'est une vision à court, moyen et long terme. C'est repenser au fond le centre-bourg avec des aménagements urbains, des édifices communaux, la mairie qui bouge pour être plus centrale, des bâtiments associatifs qui sont créés, et le tout relié avec des cheminements doux pour que les gens aussi aient plaisir à se promener, des terrasses pour des boissons et autres, pour vraiment avoir un lieu de vie. Et donc là, on est évidemment dans la phase réalisation de ces actions à court terme avec une requalification de l'espace urbain, de la voirie. Après mars 2026, les élus, s'ils sont d'accord avec cette feuille de route, décideront par exemple de déplacer la mairie, de créer des bâtiments associatifs. Donc là, il y a une sorte de feuille de route qui est dressée, qui pourra évoluer, mais il y a déjà des actions. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on touche effectivement au quotidien des gens, on touche à la vie, au fond, de sa commune, faire en sorte que les habitants aient plaisir à y vivre. Vous avez choisi enjouer parmi les trois mots pour vous décrire. Est-ce que ça veut dire que vous gardez toujours le sourire, même dans les moments de tension? Oui, bien sûr, parce que il y a toujours dans une relation politique ou dans une équipe ou dans un conseil municipal des, comment ça s'appelle, pas dire des individualités, mais de forme de concurrence. Et puis, on peut être tenté de justement stigmatiser, parfois de manière un peu démagogique, telle décision pour espérer en tirer un profit politique. Bon, moi, c'est pas ma philosophie. La démagogie, c'est pas quelque chose qu'il faut poursuivre. Il faut toujours rester, je dirais, la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Et puis, on a un cap. Et puis, le cap, c'est la réglementation. On est dans un état de droit. Parfois, notamment, je reviens sur ces thématiques d'urbanisme où on dit, le maire, au fond, en matière d'urbanisme, il a le droit d'interdire la construction de tel terrain. Non, c'est pas le maire qui décide de manière arbitraire et discrétionnaire. Il y a des règles à respecter, un PLU, et puis c'est ça qui détermine si le terrain est constructible ou pas. Et si le terrain est constructible, le maire, il a l'obligation de délivrer le permis, c'est tout. Quand bien même il ne serait pas personnellement d'accord et autres, mais c'est pas la décision personnelle qui compte, c'est ce qui est légal ou pas, c'est tout.
Votre troisième mot, c'est proximité. Or, vous voyagez beaucoup. Alors, comment vous conciliez cette proximité avec la distance ?
Oui, aujourd'hui, avec les moyens de communication font qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps physiquement présent pour solutionner des difficultés, pour animer des réunions. Il m'arrive des fois de voyager aussi, tout en restant quand même joignable, alors dans la limite des moyens de communication, mais aujourd'hui, il m'est arrivé de partir un jour au Laos, au fin fond de la jungle, il y avait une connexion Internet et on est accessible et joignable plutôt si besoin. Donc, il n'y a pas effectivement toujours besoin d'être physiquement présent pour solutionner les problèmes. Pour donner un exemple, l'année dernière, à l'été, j'étais à l'étranger et il y a le capitaine commandant de la brigade de gendarmerie qui m'appelle, c'était un dimanche, puisque il y avait un forcené qui a priori était armé et qui menaçait de se suicider. Donc le capitaine m'avait appelé puisqu'il fallait prévoir une hospitalisation sous contrainte. Donc je me fais en sorte, en appelant un de mes adjoints, que cette situation-là soit justement démêlé. Donc on n'est pas, on réussit à, même si on n'est pas physiquement là, à trouver des solutions. Bien sûr, le maire tout seul, il ne ferait rien. Il n'est pas tout seul, heureusement. Il y a des services aussi, et puis il y a des adjoints, des élus à qui on peut déléguer. Parce qu'on ne peut pas non plus tout faire, on n'est pas non plus omniscient. Donc, je vois sur les thématiques d'urbanisme, j'ai une adjointe à l'urbanisme qui est très compétente, qui gère ces thématiques-là. Si après il y a une difficulté, elle me réfère, on échange et puis il y a un arbitrage qui se fait. Mais après, moi j'ai pleine confiance dans les élus et dans mes adjoints, dans les services aussi. En matière travaux aussi, c'est la tâche. Quand je dis urbanisme et travaux, ce sont vraiment deux délégations qui sont très compliquées parce qu'on est parfois confronté à des demandes un peu contradictoires. Et puis, il faut là aussi savoir garder le cap. Et donc, les travaux, oui, c'est jamais évident. Et puis, j'ai une adjointe qui fait du très bon travail. Et puis, c'est le cas évidemment de tous les adjoints, le social, le sport, le tourisme, le social. Donc le nautisme aussi, la sécurité, c'est une équipe en fait. Hein. Et puis les services, c'est la même chose, parce que souvent les gens pensent que l'élu, c'est un technicien, alors qu'en fait, on est là pour prendre des décisions, mais ce sont les agents de la commune qui exécutent aussi, puis qui remontent aussi, qui nous disent, les deux options possibles, on leur demande, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, y a un choix qui se fait, mais ce n'est pas l'élu qui doit se comporter comme le technicien, parce que parfois on n'est pas compétent pour cela. Quand je pense à un dossier, on a une piscine à Plougonvelin, Il y a un pompage qui se fait en eau de mer et quand cette piscine a été implantée, a priori, un des élus de l'époque avait exigé que le pompage se fasse à tel endroit. Ce qui techniquement s'est avéré une erreur. Donc ça démontre bien les limites. C'est l'élu, c'est pas lui qui va se substituer au technicien. On n'est pas architecte. Chacun doit rester à sa place.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous donner envie de nous engager en 2026 au service de notre commune ?
Intellectuellement, c'est stimulant parce que ça nous fait rencontrer des personnes nouvelles, ça nous fait toucher à des thématiques que l'on n'aurait pas forcément rencontrées par ailleurs. Il y a ce côté effectivement mandat qui est passionnant parce qu'on touche vraiment au concret. Comme je disais, on essaye d'apporter des solutions face à des difficultés. Donc c'est vraiment le côté aider et comme on disait tout à l'heure, essayer d'être utile.
Comment est-ce qu'on est accompagné quand on s'engage au tout début au service de sa commune ? Pour un jeune, par exemple, ça peut faire un peu peur de se lancer comme ça quand on n'y connaît rien. Alors, comment leur donner envie aux jeunes d'y aller ?
Alors, il n'y a pas une seule réponse. Il y a, à mon sens, plusieurs solutions. Ça passe aussi par l'école. Moi, je me souviens, quand j'étais collégien, il y avait des cours d'instruction civique. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a, je ne pense pas. Donc, c'est aussi un moyen d'intéresser. Il y a aussi le biais associatif. Souvent, les gens qui s'impliquent dans le domaine associatif, après, ils souhaitent continuer cet engagement-là pour la collectivité en étant candidat. Et puis il y a le côté aussi relation avec les élus, quand on les rencontre, où on peut être sensibilisé. Je pense lors des élections où on a toujours besoin d'assesseurs ou de scrutateurs pour le dépouillement, il nous arrive de solliciter évidemment des citoyens de la commune. Et puis parfois, en discutant avec eux, en leur expliquant comment ça fonctionne, ça peut également leur donner envie.
Nous sommes ici dans votre cabinet d'avocat. Comment vous parvenez à concilier vie professionnelle, sûrement assez dense, mandat d'élu de proximité et vie privée ?
Les clients parfois, dans le cadre de mon activité professionnelle, peuvent être inquiets parce que c'est quand même aussi chronophage. Son agenda, on ne le maîtrise pas. Donc parfois ça suscite une inquiétude et puis aussi on peut pas dire une certaine forme de respect, mais parce que on sait que on va passer du temps aussi donc au détriment de sa vie professionnelle, de sa vie familiale, parfois aussi de sa vie privée. Donc
vous êtes un globe-trotteur, autrement dit vous voyagez énormément. C'est quel type de voyage?
Alors je vais parfois dans des pays atypiques parce que ça permet de voir in situ comment se passent les choses, et puis surtout ça permet de relativiser, parce que quand on revient en France, on s'aperçoit qu'en définitive on est quand même bien loti et que on a de la chance de vivre en France et dans nos communes. Alors, il m'est arrivé d'aller au Karabakh par exemple, au Kosovo, en Syrie, en Libye, en Ukraine également, au Liban, donc c'est des pays, auxquels, en Amérique centrale, plusieurs destinations. Et puis c'est la découverte, en fait, la curiosité que j'évoquais tout à l'heure, où on apprend des choses, on nous présente les pays d'une certaine manière, et puis le souhait de découvrir, tout simplement.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut être un aventurier pour s'engager en politique ?
Alors, peut-être. Après, l'aventure ne veut pas dire que c'est risqué. Quand il y a l'aventure, on découvre. On rencontre aussi des gens. C'est aussi ça, la vie municipale, des rencontres, des découvertes. Apprendre de nouvelles choses tous les jours. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Une émission enregistrée le 30 mai 2024.